CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Cesse de te mépriser, tu as de la valeur ». Bonjour à tous.
Bonjour Yveline.
Et bonjour à notre invité, pasteur Aïda Moussavou. Comment vas-tu ?
Très bien, je vais bien. Honorée d'être là. Bonjour Gwé.
Bonjour pasteur Aïda.
Bonjour Nadine.
Bonjour pasteur.
Bonjour, bonjour.
C'est un plaisir pour nous de t'avoir sur le plateau. Tu es avec ton époux, pasteur à ACER Rennes. Donc ACER qui est la famille d'église du pasteur Alain-Patrick Tsenguet qu'on connaît bien, qui est sur enseignemoi.com depuis longtemps. Donc tu es sa fille spirituelle finalement. Et c'est ça, avec ton mari, vous vous occupez de l'église à Rennes et vous avez une petite fille de 3 ans.
Oui, Eliana qu'on embrasse au passage.
Ah, absolument, on embrasse Eliana. Et pasteur Aïda, tu vas faire une rubrique famille aujourd'hui. Tu vas parler aux femmes d'hommes de Dieu, finalement, de pasteurs, d'hommes dans le ministère.
Tout à fait. Alors, je suis venue encourager aujourd'hui des femmes qui ont des, comment je pourrais dire, des défis, des femmes qui passent par des temps où elles ne sont pas vraiment à la hauteur dans leurs responsabilités. Et j'ai un message d'encouragement pour ces femmes-là tout à l'heure.
C'est super, on a hâte de découvrir tout ça. Et c'est ça, comme le thème le dit, aujourd'hui on va parler des personnes qui se méprisent. Alors le manque d'estime de soi, c'est quelque chose qu'on a tous déjà plus ou moins vécu dans notre vie, mais pour certains c'est un véritable handicap. Ça empêche d'entreprendre des choses, de prendre des décisions, et puis on se met toujours en retrait, on se méprise, on pense qu'on va échouer avant même qu'on ait commencé. Et on va voir comment on peut déterminer notre valeur, et surtout que notre valeur ne dépend pas de ce qu'on a fait, de ce qu'on pense être, mais de ce que Dieu dit de nous. Et on en parle avec toi, Nadine, dans la pensée du jour.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler à vous qui vous méprisez, qui avez peut-être une faible estime de vous en ce moment, de vous qui ne vous sentez pas à la hauteur, qui ne reconnaissez pas votre propre valeur. Et ça peut sembler un sujet un peu des fois enfantin. Des fois, il y a des gens qui se disent « moi, ça ne me concerne pas ». C'est les enfants qui doivent se préoccuper de ces choses-là. Mais je crois que si, dès le départ, on n'a pas une bonne estime de nous-mêmes, ça affecte tout. Ça affecte comment on réagit en tant que parent, comment on se comporte dans le milieu de travail, comment on réagit en tant qu'époux et en tant qu'épouse. Donc, de reconnaître notre propre valeur est très importante. Et on va voir un psaume ensemble, qui est un psaume quand même qui est très connu par rapport à ce sujet. C'est le psaume 139 de David, versets 13 et 14. David dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Il y a quelque chose déjà qui est d'entrée de jeu que David fait. Et si on connaît l'histoire de David, on sait que c'est cet enfant qui était oublié, entre guillemets, de son papa. Quand on est venu loindre, il était dans les champs. Mais quand David dit cela, ça me pousse à vous dire que l'importance que vous avez, la valeur que vous avez, c'est Dieu qui vous l'accorde. Peu importe ce que vos parents ont fait, peu importe ce que vos parents ont dit, peu importe ce que vous étiez voulu ou non désiré, que vous étiez un accident ou pas, vous avez de la valeur. Et David dit ce, il dit que quand j'étais encore une masse informe, tes yeux déjà me voyait. Et c'est important de connaître que notre valeur vient du fait que c'est Dieu qui nous a créés, tout simplement. Avant que notre maman soit au courant, avant que notre papa soit au courant, Dieu lui était déjà au courant parce que c'est lui qui nous a créés et nous sommes créés à son image.
Amen.
La deuxième des choses, c'est de reconnaître que notre environnement peut altérer notre perception de notre valeur. Si on reprend encore l'histoire du jeune David, ben c'est sûr que si c'était un enfant qui avait été oublié, qui était rejeté par ses frères, ou en tout cas qui était laissé pour compte, l'environnement aurait pu affecter sa façon de se percevoir, mais il dit non, je suis une créature merveilleuse, dit mon âme le reconnaît bien. Mmh. Et ça, c'est quelque chose d'important. On peut se rendre compte que de par l'environnement dans lequel on grandit, peut-être qu'on a grandi dans un quartier qui est pauvre, dans une cité, on est peut-être grandi dans des mauvaises conditions et du coup on a l'impression qu'on est un citoyen de deuxième classe, mais on n'est pas un citoyen de deuxième classe. Yes. Dieu nous a rachetés et Dieu nous donne cette valeur-là. Donc ne pas laisser l'environnement des critères de beauté ou de valeur que les gens peuvent donner nous affecter. Et la troisième des choses, c'est de réaligner notre langage et nos émotions et nos sentiments par rapport à ce que Dieu dit. David a dit « Mon âme reconnaît bien mm-hmm. ». Et vous devez réaligner non seulement votre pensée, mais même votre langage. Des fois, vous avez un langage qui est qui se condamne soi-même, un langage de dépréciation. Et ça, ça doit changer pour aligner votre langage à dire « Dieu m'aime, Dieu m'accorde de la valeur, j'ai de l'importance aux yeux de Dieu ». Et notre valeur, c'est pas dans ce que nous accomplissons. C'est pas, Dieu ne regarde pas à ce que nous faisons pour nous nous racheter. Il nous a déjà rachetés avant même qu'on ne soit conscient de lui. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que quand lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Mmh. Alors aujourd'hui, je vous encourage à chercher la révélation de l'amour de Dieu, à vraiment avoir cette révélation que vous êtes une personne importante, pas parce que vous faites, juste par le fait que Dieu vous a créé tout simplement. Et Dieu dit dans Jérémie, je t'aime d'un amour éternel et voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Alors je vous encourage ce matin, à vous qui vous sentez peut-être down, qui vous sentez moins bon que les autres, qui vous sentez en retard par rapport aux autres, à tourner vos yeux vers Dieu et à voir cette révélation que Dieu vous aime, que vous êtes précieux, que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu.
Amen. Merci Nadine. C'est un thème sur lequel on a besoin de méditer, je pense, d'aider ce que tu as partagé dans ta pensée. On a besoin de se le remémorer, d'y penser. C'est vrai, le Seigneur nous a créés. Il a pris le temps de nous créer, et tu le disais dans ta pensée, avant même que notre mère le sache, lui, il le savait. Il nous a créés, il nous a choisis. Il a donné son Fils unique pour nous. Il l'a sacrifié à la croix pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse être sauvé, qu'on puisse vivre éternellement. Juste à cause de ça, on a de la valeur. Mmh. Et c'est vraiment nécessaire de prendre le temps de méditer. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que quand on le dit comme ça, on est là, oui, amen, alléluia, c'est vrai. Mais à l'intérieur, en fait, il y a tout un tas de mensonges qui gravitent dans notre tête, qui nous disent, ah, regarde ce que t'as pas réussi à faire. Ah, quand t'étais enfant, il y a eu ci. Oh, tu fais ça, tu sais pas faire ça. Les autres savent mieux. Les autres sont meilleurs que toi. Les autres sont plus beaux, sont plus ci, sont plus ça. Et tu tournes ça dans ta tête et tu oublies de penser à simplement le fait que Dieu te trouve merveilleuse, comme tu l'as dit, que nous sommes des créatures merveilleuses, créées à l'image de Dieu, que Dieu a un plan pour nous, qui veut servir de nous, qui nous aime. Et je vais vous lire un verset et je vous encourage à le saisir à la maison vraiment pour vous. C'est notre verset du jour, Ésaïe 43 au verset 4. Tu as de la valeur à mes yeux, tu as de l'importance et je t'aime. Le Seigneur vous dit ça à vous à la maison qui peut-être avez des problèmes d'estime personnelle. Et comme je le disais en introduction, c'est vraiment quelque chose qui peut être un handicap. Et Nadine, généralement quand même, ça vient de l'enfance, ce genre de problème d'estime de soi.
Mais oui, mais comme tu l'as dit, c'est un schéma de pensée qu'on a parce que des fois, on peut entendre des choses de notre oreille physique. Mais si dans nos pensées, dans notre passé, on a des choses qu'on a entendues qui ont forgé notre caractère, et bien qui ont forgé notre façon de regarder les choses, et du coup notre façon de voir les choses va toujours être par rapport à ce qu'on nous a été dit avant, parce qu'il y a des âges, il y a des moments où est-ce qu'on est plus vulnérable. Quand on est enfant, par exemple, on est plus vulnérable, on est plus réceptif aux choses qu'on entend, et ces choses-là modèlent notre façon d'être. Et dans l'environnement, l'arrière-plan, les gens autour de nous, les personnes qui sont en autorité sur nos vies, s'ils ont déclaré des choses, ben du coup, on peut cristalliser ces choses-là et les prendre comme une vérité, alors que la Bible nous dit autre chose, alors que la parole de Dieu nous dit autre chose. Donc quand on parle d'estime de soi, ben on peut pas passer à côté du cas de Léa. Léa qui était cette femme qui, par un seul détail, qu'elle avait les yeux délicats, toute sa vie a été cristallisée sur ce détail-là et toute sa vie a été modelée par rapport à ça. Mmh. Elle a toute sa vie cherché à avoir l'amour de son mari, en oubliant toutes les qualités qu'elle avait, parce que moi, quand je vois Léa, je vois une femme qui est courageuse, une femme qui sait toujours, qui est aimante, parce que malgré ce que Jacob a fait, elle aime encore, elle veut encore faire fonctionner son mariage. Je vois des qualités vraiment intéressantes. Mais Léa, quant à elle, elle se voit toujours par rapport à ce détail-là qui a été dit. Et donc, du coup, si tes parents ont dit des choses, si ton environnement t'ont vu d'une certaine manière, eh ben tu risques de te positionner par rapport à la façon dont on t'a perçu. Mm-hmm. Donc c'est super important de prendre ce qu'on nous a dit et de venir dans la parole de Dieu et de nous revoir au travers de la parole et de dire, ok, moi on m'a dit ça, je pense que je suis lente ou je pense que j'y arriverai jamais. Quelles sont tes promesses pour moi, Seigneur? Et si j'arrive pas à me les approprier, de redéfaire vraiment notre dialogue intérieur pour que ce dialogue-là soit maintenant un dialogue qui est nourri de la parole et non des paroles de nos parents, de nos voisins, de nos profs d'école. Mmh. Il y a un prof d'école qui t'a dit que toi, tu réussiras jamais. Il a été dit en quatrième année et jusqu'aujourd'hui, tu portes encore le poids de cet échec-là.
Ouais.
Et ça, c'est des choses qu'il faut se libérer. C'est des choses qu'il faut vraiment casser dans nos vies pour se voir au travers de la parole de Dieu.
Amen.
Tout à fait. Vraiment, j'ai envie de rebondir sur ta pensée qui est très bénissante, hein, si je peux dire ainsi. Mm-hmm. Et pendant que tu étais en train de parler, je voyais vraiment le côté aussi culturel. Mm. Parce que parfois, en fait, la mauvaise estime de nous-mêmes peut venir de la culture qu'on a reçue. Par exemple, dans certains pays, on peut valoriser certaines choses. Mm-hmm. Et quand on arrive, par exemple, si je prends le cas en Afrique, il y a des traits physiques qu'on peut trouver très beaux. Et quand tu arrives en Europe, c'est peut-être pas forcément les mêmes critères. Moi, j'ai connu parfois des jeunes filles qui arrivaient dans leur pays, on leur disait voilà, t'es belle, t'as un peu de poids. Mm-hmm. Et elles arrivent en France, on leur dit non, faut pas être comme ça. Et donc ça crée tout de suite en fait des complexes inimaginables. Mm-hmm. Et elles grandissent avec ça et elles développent une façon de se voir qui est très 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 négative. Mm-hmm. Et quand elles arrivent parfois à l'église, on doit refaire tout un travail avec elles. Et comme tu disais, on doit les emmener à se voir par rapport à la parole de Dieu. Et des fois, c'est difficile. Il y a vraiment un combat entre ce que Dieu dit de nous et ce que les autres nous ont dit et qui, finalement, ont constitué des forteresses, en fait, dans nos vies.
C'est vrai.
Et c'est vrai que c'est, la culture aussi peut vraiment jouer.
Effectivement. Puis tout comme quand tu parles de culture, moi, je pense aussi, on a, dans certaines cultures, pas du tout l'habitude de valoriser, on parlait d'enfants, de valoriser ses enfants, mais même en tant qu'adulte, de dire des choses valorisantes, des compliments, de s'estimer simplement de façon intentionnelle. C'est, dans certaines cultures, ça se fait pas, c'est tout. Pourquoi? Si on le faisait, on dirait, c'est trop bizarre, qu'est-ce que t'es en train de faire? Alors qu'en fait, tous les êtres humains ont besoin de ça. Et c'est la nécessité de décider d'être intentionnel, vraiment, de faire l'effort, de valoriser, que ce soit nos enfants, mais que ce soit aussi en tant qu'adulte, notre époux, notre épouse, nos amis, d'avoir des paroles positives. C'est toujours beaucoup plus facile de pointer du doigt le négatif que le positif.
Oui.
Le fait de se sous-estimer, c'est vraiment parler de la malédiction sur nos propres vies et puis sur les gens, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est pas aussi anodin qu'on peut le penser, de dire « Ah, oh, je pense ça de moi ». Non, finalement, c'est terrible, c'est une malédiction. Et tout à l'heure, tu disais que le Père a envoyé Jésus-Christ pour nous racheter de cette malédiction. Et c'est curieux de voir comme, même dans le jardin, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, qu'à un moment, lorsqu'ils vont chuter, qu'ils vont découvrir qu'ils ont une nouvelle perception d'eux-mêmes. Ils vont dire « On est nus, on s'est cachés ». C'est parce qu'ils n'arrivent même plus à se voir comme Dieu les avait créés.
Mmh.
Et Dieu a parlé sur nous, dans ce psaume qu'on a lu, il a parlé sur nous, il a parlé des projets, il nous a conçus dans le sein de notre mère. C'est lui qui a fait cette œuvre merveilleuse.
Amen.
Mais sauf que, quand on arrive dans le monde, on entend tout dès le départ. Dès qu'on est confronté au monde extérieur, qui est un monde déchu, faut le rappeler, on est confronté à des paroles blessantes, à des paroles de découragement, à des paroles de jalousie, à des paroles de mépris. C'est ce qui fait que ça construit notre être. Mais nous, on n'est pas construit selon ça, selon les paroles qu'on nous a dites, on est construit selon la parole.
Amen.
Et la parole, elle nous dit de parler même sur nous-mêmes. Comment on peut entrer dans sa destinée? Comment on peut entrer dans des projets de foi si on se croit pas capable? Dieu a dit à Gédéon de changer son langage.
Yes.
Dieu a dit à plusieurs personnes de changer leur langage parce que avec ce langage, c'est impossible d'accomplir les choses dans lesquelles on est appelé, les choses auxquelles on est appelé.
Yes.
Et les gens sans Dieu, lorsqu'ils vont parler ce genre de langage, ils vont passer comme arrogants. Mais nous, ça vient pas de nous, ça vient de la parole. Si on dit je suis une créature merveilleuse, c'est parce que la parole le dit. Si on dit je réussirai, c'est parce que la parole le dit. Si on dit je vais réussir dans mon entreprise, c'est parce que la parole le dit. Si je dis je serai toujours en haut, si je serai la tête et non la queue, c'est parce que la parole le dit. Donc c'est pas arrogant, c'est Dieu qui nous a dit parle-le, dis-le. Donc le mépris, faut vraiment faire attention. Le mépris de soi-même, c'est se placer en dessous des privilèges de Dieu et se maudire soi-même.
Amen. On peut regarder une citation de Joyce Meyer qu'on connaît bien. Joyce Meyer qui a dit justement, je vais attendre que la citation s'affiche parce que je ne l'ai pas sur mes fiches, « Arrêtez de déterminer votre valeur sur ce que les autres disent de vous, mais laissez ce que dit la parole de Dieu déterminer qui vous êtes. » C'est ce que tu viens de dire, Gwen, et on en a parlé, on a beaucoup parlé de la parole de Dieu. Nadine, j'imagine que c'est un des conseils aussi que tu donnes aux personnes qui nous écoutent.
Mais oui, s'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment et qui se dit, ben oui, je te reconnais dans cette façon de faire, dans cette façon de fonctionner, et il veut changer, il veut se dire, mais comment je fais pour ne pas me mépriser? Je crois qu'il y a trois choses. Il y a d'abord, il faut reconnaître notre valeur initiale, il faut reconnaître la valeur que Christ nous donne, et il faut reconnaître les promesses de Dieu sur notre vie. Donc, reconnaître notre valeur initiale, c'est vraiment prendre conscience, comme on a dit dans ce psaume, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été créés par Dieu. Nous ne sommes pas le produit de la rencontre de deux personnes, tout simplement.
Yes.
Nous sommes dans le plan original de Dieu. C'est que Dieu nous aime et dans sa pensée, il nous avait déjà prévu et il nous a créés. Et quand tu prends conscience que tu n'es pas n'importe qui, parce qu'au-delà, au-dessus de tes parents, de tes grands-parents, de ta tribu, de ta race, de ton ethnie, il y a Dieu qui est au-dessus de ça et c'est lui qui t'a créé. Du coup, ça te fait prendre conscience. C'est ça ta valeur initiale. Et ça, c'est vraiment important de la prendre conscience. De deux, prendre conscience de la valeur que Christ nous donne. Tu en as parlé, que Christ nous a rachetés. Donc Dieu nous a non simplement aimés, Mais il nous a tellement aimés que lorsque le péché nous a séparés de lui, dès le jardin d'Éden, il a mis ce plan en marche pour nous racheter. Mmh. Et par la croix, Christ nous a lavés. Par la croix, Christ a déchiré le voile de séparation. Il nous a rapprochés de Dieu. On est enfants de Dieu, co-héritiers de Christ. Amen. Ça, c'est quelque chose qui automatiquement nous donne de la valeur, qui automatiquement nous emmène à ne plus nous mépriser. Amen. Et la troisième des choses, comme Gwen en a parlé dans son intervention, lorsqu'on comprend qu'on a des promesses, qu'on a une destinée, que Dieu a des plans pour nous, qu'on n'est pas juste là pour utiliser de l'oxygène, qu'on a vraiment quelque chose à faire. La Bible dit dans Éphésiens 2, je l'ai écrit ici, c'est un verset que j'aime beaucoup, j'aime vraiment ce verset. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mm-hmm. J'aime trop ce verset. Ouais. Et ce verset, quand tu te rends compte, attends, non, Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que je les fasse. Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a une promesse. Il y a des promesses sur ma vie. Donc, du coup, tu peux pas te mépriser. Mm-hmm. Du coup, tu peux dire, OK, comme le psalmiste, ta promesse me fait vivre, Seigneur. Tu as des choses pour moi. Je change mon langage, comme tu as dit, Gwen. Je m'adapte à la réalité, la vérité d'abord, que la Bible dit. Cette réalité qui est peut-être spirituelle, qui n'est peut-être pas encore manifestée. Mm-hmm. Peut-être que tu es dans des dettes. Peut-être que tu es dans un environnement qui ne te valorise pas ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est une réalité temporaire. La vraie, vraie réalité, c'est ce que Dieu a déclaré. Et du coup, tu marches avec ça et tu ne peux que marcher la tête haute, en fait.
Ben ça, c'est fort parce que moi, la première fois que j'ai prêché du psaume 139, je me suis dit dans ma tête, j'ai vu Dieu un jour, le Père, était là et a dit, un jour dans l'éternité passée, a dit, Aïda, voici les jours qui te tombent. Et il a fait un plan sur ta vie. Mm-hmm. C'est puissant. Mm-hmm. When Dieu a écrit quelque chose dans l'éternité passée, il y a peut-être 200 milliards d'années sur ta vie. Mm-hmm. On peut pas capsuler ça.
Non.
Et tu dis, waouh, Dieu a pensé à moi et plus fort que ça encore pour moi aujourd'hui. On peut pas dire qu'on n'a pas de valeur parce que Dieu a choisi et a décidé volontairement de mettre son esprit en nous.
Amen.
Il dit même.
T'imagines-tu comment il nous fait confiance plus que nous, on se fait confiance nous-mêmes, mm-hmm. de mettre son esprit en nous? Mm-hmm. Il nous regarde, c'est on se voit d'une façon qu'on devrait pas se voir. Mm-hmm. Dieu dit, t'as tellement de valeur, je t'aime tellement que le jour que tu m'acceptes, en une fraction d'une seconde, le Saint-Esprit vient en toi. Mm-hmm. Et là, il va te diriger, il va te guider dans les projets que j'avais pour toi.
Mm-hmm.
Et là, tu te dis, waouh, mais Dieu, je dois me faire plus confiance. Mm-hmm. Parce que tu me fais plus confiance que moi-même, je me fais confiance.
Ben ouais.
Dieu, j'ai tellement de valeur à tes yeux que je le réalise aujourd'hui et je veux accepter les décrets qui ont été dits par tout le monde sur le plateau aujourd'hui. J'accepte que j'ai de la valeur à tes yeux parce que comme t'as dit Evelyne, Jésus est mort pour moi. Il est pas mort pour des pourris. Il est pas mort pour de la poubelle. Il est mort pour des gens qui l'ont tant aimé.
Amen.
Et ça, c'est tellement fort. C'est glorieux,
Amen.
Ça.
Amen. Yes. Tu voulais ajouter quelque chose?
Non, c'est bon.
Tout est dit. Et moi, je veux vraiment vous encourager à la maison à écouter les émissions de la semaine prochaine parce qu'on a dit des choses. On a parlé du fait que Dieu avait un plan pour chacun d'entre nous. On a parlé de comment aussi accepter, s'approprier la parole de Dieu. C'est des thèmes qu'on va aborder dans les émissions la semaine prochaine. Donc, je voulais faire une petite parenthèse parce que vraiment, si vous voulez creuser davantage, ne manquez pas des émissions de la semaine prochaine. Et si vous êtes une femme d'un pasteur, d'un homme de Dieu et que vous vous sentez dévalorisée, la rubrique famille est pour vous. On y va tout de suite. Avec Pasteur Aïda. Donc, on a beaucoup parlé des personnes qui se méprisent. Et puis, y a des hommes, il y a des femmes. Mais là, on va se concentrer un petit peu sur les femmes de pasteurs qui ont, d'hommes de Dieu en général, des serviteurs de Dieu, qui ont de faux raisonnements, de fausses façons, qui croient des mensonges finalement, qui les rabaissent sans arrêt. On va commencer avec l'un des premiers mensonges qu'elles peuvent se dire, c'est « j'ai l'impression de ne pas être impliquée dans le ministère de mon mari ». Ça, c'est des choses qui arrivent fréquemment.
Wow, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent fréquemment. Je suis moi-même femme de pasteur et je rencontre pas mal de femmes de serviteurs de Dieu. Et souvent, ça revient. J'ai l'impression de ne pas être impliquée dans le ministère de mon mari. Pourquoi ? Parce que souvent, nous lions l'implication au fait d'être sur la chair à côté de nos époux. En fait, il faut redéfinir ce que c'est qu'être impliquée aux côtés de l'homme de Dieu qu'on accompagne. Et si on va juste sur le fait que être impliqué, c'est le fait de prêcher le dimanche ou qu'on nous voit tenir un micro, en fait, d'entrée de jeu, si on n'a pas reçu l'appel là, on sera cassé.
Oui.
Alors que si, comme on le disait tout à l'heure, on arrive déjà à se dire « Dieu m'a créé avec un but, Dieu m'a créé avec une vision » et qu'on prend le temps de découvrir la vision personnelle de Dieu pour nous, on n'aura pas de mal finalement à ne pas faire, à ne pas être sur la chair au moment où on aimerait peut-être être comme notre mari. Mmh. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est que pour être impliqué, il faut comprendre en fait l'œuvre que le Seigneur a confiée à notre mari. Il faut essayer de comprendre son appel. Il faut essayer de comprendre ce que Dieu veut faire avec lui. Et lorsqu'on comprend ce que Dieu veut faire avec notre mari, on peut mieux être une aide. Mmh. Parce qu'on peut pas aider quelqu'un si on ne sait pas là où il va. Donc on a besoin de comprendre la vision de notre mari. Et à partir de ce moment-là, on peut mettre en place des stratégies, on peut mettre en place même des temps de prière. Mmh. Comment être impliqué? Le fait de prier pour mon mari alors qu'il va servir, le fait même de me lever le matin, de repasser son linge, je suis impliquée dans le ministère, en fait, mm-hmm. aux côtés de mon mari. Mm-hmm. Le fait d'être dans l'assemblée à l'église et de conseiller des personnes dans l'église. En fait, on aimerait bien toutes avoir un ministère où on nous voit devant. Mmh. Et c'est ça le véritable problème.
Ça dépend, pas toujours.
Ah, mais beaucoup, hein. Beaucoup de femmes que je rencontre aimeraient vraiment, en fait, quand elles parlent, en fait, de je suis pas impliquée, c'est le côté où, on me voit pas, je suis pas devant. Mmh. Et c'est bien de redéfinir les choses. Oui. L'implication, c'est pas juste le fait d'être devant.
Mmh. C'est ça, c'est la compréhension de l'implication, en fait, qui est pas forcément la bonne. Mmh. Et de changer son regard sur les choses qu'on fait au quotidien qui vont aider nos époux, finalement.
Mmh. Tout à fait. Mmh.
On passe au deuxième mensonge. Les gens font plus confiance à mon époux qu'à moi. Donc là, on parle peut-être plus de conseils pastoral et tout ça. Ils vont toujours voir mon mari. Moi, on tient pas compte de mon avis.
Tout à fait. Bon, alors là, je sais pas si c'est un mensonge ou pas. Parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mm-hmm. Mais les gens font plus confiance, en fait, à nos époux qu'à nous. Donc, parfois, il peut arriver, par exemple, pour tout ce qui est rendez-vous pastoraux. Par exemple, tu peux dire que tu peux faire le rendez-vous, mais tu vois vraiment que les personnes accordent une importance particulière au fait de rencontrer le serviteur de Dieu. Mmh. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut se sentir un peu dévalorisé, se dire, mais pourquoi moi? Est-ce que les personnes autour de moi pensent que j'ai peut-être pas assez de connaissances de la parole? Est-ce que je n'aurais pas une solution pour leurs besoins? À ce moment-là, en fait, ce que j'aimerais dire à une femme qui nous regarde en ce moment, c'est en fait de ne pas, se définir au fait que les gens ne viennent pas vers nous. Mmh. C'est-à-dire que même s'ils viennent pas vers nous, continuons de manifester l'amour, continuons de vraiment apporter ce qu'on peut donner. C'est-à-dire que quand on a l'occasion de pouvoir conseiller, être une occasion un instrument de joie pour une femme, pour quelqu'un dans l'assemblée, faisons-le vraiment. Et en fait, moi, je sais que personnellement, c'est en faisant ces choses-là, je continuais à faire ce que je faisais. J'étais pas en train d'être blessée, de me dire, on vient pas vers moi. Donc, j'arrête tout. Parce que c'est le piège. Le diable veut nous emmener à abandonner, en fait.
Oui.
À se dire, bon, là, je vais arrêter. De toute façon, je suis inutile. Et une fois qu'on adopte cette pensée-là de je suis inutile, forcément, en fait, on est cassé. Mm-hmm. On est cassé et on ne fait plus ce qu'on devait faire. Alors que c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Alors, même quand les gens vont vers notre mari, on doit continuer de se dire, c'est pas grave. Et je pense aussi que, il y a un moment donné où c'est aussi à nos maris, serviteurs de Dieu, qui sont peut-être plus en avant à un moment donné, d'emmener en fait cet équilibre-là. Et moi, je l'ai vu personnellement avec mon époux, qui à un moment donné a commencé le ministère, donc jeune pasteur, etc. Et il a été vraiment en fait celui qui disait non, mais elle peut vous apporter. Et souvent, il m'emmenait avec lui dans les rendez-vous. Mmh. Et petit à petit, mon mari a aidé en fait les personnes autour de nous à pouvoir en fait me faire confiance. Mmh. Mmh. Donc je pense aussi que le mari a une implication en fait pour aider son épouse en fait dans ça aussi.
Ouais, c'est vrai que c'est important ça, que le mari aussi pose des actes pour valoriser sa femme si finalement au niveau de l'assemblée, parce que c'est certain que si c'est lui qui prêche, c'est lui qui est toujours en avant. Ben, c'est inévitable aussi qu'on ait envie d'aller voir la personne qui prêche, parce que chaque dimanche, on est béni, on est enseigné, on est édifié. On se dit, si j'ai besoin d'un conseil, je vais vouloir aller voir cette personne-là. Mm-hmm. Et c'est évident que si le mari ne prend pas aussi cette décision de prendre sa femme avec, parce que sa femme a forcément quelque chose à donner aussi, un travail en équipe, finalement, qui peut être fait.
Tout à fait. Et c'est vrai que les gens se rendent compte par la suite qu'ils avaient beaucoup d'a priori. Parfois, c'est juste des a priori, parce que quand ils viennent, le même conseil qu'ils auraient reçu avec le serviteur de Dieu, ils peuvent le recevoir avec la femme du pasteur. Donc, c'est juste avoir une ouverture d'esprit, mais surtout dire aux femmes de serviteurs de Dieu dans ce cas-là de ne pas se décourager. Mm-hmm. Ne pas se décourager, continuer de faire le ministère, parce que c'est Dieu qui est notre récompense, en fait. Mm-hmm. Et le Seigneur s'arrange à un moment donné à faire, en fait, fructifier, à révéler, à manifester ce qu'il a mis en nous. Mm-hmm. Donc, voilà.
Tu voulais dire quelque chose, Nadine? Non. Très béni. Hein.
Je suis très béni.
Gwen voulait.
Moi, en tant que femme. Non, 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 c'est vrai.
Je en tant que serviteur de Dieu.
Ce qu'elle disait, c'est puissant, en fait, c'est que aussi, c'est le rôle du pasteur, du mari, de valoriser son épouse, de valoriser l'onction qui est sur son épouse. Et je crois que l'onction aussi, dans les maisons, dans les églises, quoi. Je crois que l'onction qui est sur le pasteur, elle repose aussi sur les épouses. Mmh. Mais ça demande deux choses. Ça demande non seulement aux gens qui viennent voir leur pasteur de reconnaître l'onction qu'il y a aussi sur l'épouse du pasteur. Mmh. Si tu le reconnais pas, tu recevras rien. Mmh. Et ça demande aux serviteurs, effectivement, de relâcher cette onction aussi sur son épouse. Donc je crois que c'est une question aussi de perception, comment les gens veulent recevoir, sont prêts à recevoir. Il y a des gens, ils vont voir le pasteur, mais finalement ils vont rien recevoir avec le pasteur parce que leur attitude c'est juste d'attendre un homme, une réponse d'un homme de telle et telle personne. Alors que quand tu comprends l'onction, tu sais que l'onction est déversée sur les pères, le père et la mère de la maison, et tu reçois finalement, que ce soit avec le pasteur ou avec la femme du pasteur, ou même avec d'autres pasteurs de l'église.
De l'église, tout simplement. Exactement. Et puis un autre point, Yveline, avec les femmes des serviteurs de Dieu aussi dans cette catégorie-là, c'est que parfois, je rencontre des femmes qui peuvent développer des sentiments même de jalousie. Mmh. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, il y a peut-être plusieurs femmes qui vont voir leur mari, etc. Et en fait, j'ai pu voir des femmes qui, à un moment donné, développent vraiment des sentiments de rivalité, de jalousie pour d'autres femmes, et ça crée même des problèmes dans le couple. Et ce que je voulais vraiment dire à ces femmes-là, c'est que c'est pas la peine d'aller sur ce terrain-là, parce que finalement c'est un terrain que le diable aussi utilise. Mm-hmm. Et je me rappelle de cette femme-là qui était venue me voir et qui me disait, Pasteur Aïda, mais mon mari, enfin cette femme passe plus de temps avec mon mari, etc. Et bon, parfois il y a aussi un peu d'abus, donc je suis pas en train de dire qu'il faut pas équilibrer. Mm-hmm. Il faut bien sûr être équilibré par rapport à la parole, mais faut pas développer de sentiments de jalousie, de rivalité. En fait, il faut entretenir un système de pensée qui est sain. Mmh. Comme nous dit la parole dans Philippiens 4, verset 8, tout ce qui est digne de louange, qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. Mmh. Et on doit toujours, à l'instant où une pensée négative veut venir par rapport à une femme dans l'église ou par rapport à notre mari, on se réfère à ce verset-là, on déclare avec et on prie, en fait. Amen. Donc, c'est vraiment important.
Oui, bon conseil, Pasteur Aïda. Troisième point, j'ai parfois l'impression qu'il fait sa vie et moi la mienne. Alors ça, c'est vrai que parfois, c'est une impression, mais parfois, c'est presque une réalité parce que les vies sont tellement à l'opposé qu'on a l'impression, finalement, on n'a même pas de vie commune.
Ça, c'est vrai aussi. Alors, si je prends, par exemple, pour parler de moi, parce qu'on parle...
Oui. Des voiles.
De mon couple. Donc, mon mari, lui, il s'occupe, au niveau de là où on est, de l'implantation des églises, en fait, en Bretagne. Donc, ça fait qu'il est souvent parti dans les différentes villes pour les groupes de prière, etc. Et c'est vrai que souvent, moi, au niveau de l'église, je suis plus dans autre chose. Donc, on n'a pas forcément les mêmes tâches. Et c'est vrai que parfois, on peut sentir qu'on ne se voit pas. Mais je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de parler de l'équilibre familial. Mm-hmm. Il faut prendre le temps avec notre conjoint ou notre conjointe, pour parler, en fait, pour vraiment trouver des temps, parce que c'est pas non plus bien qu'à un moment donné, il y ait comme un déséquilibre qui fait que le couple, en fait, perd sa stabilité. Mm-hmm. Ça aussi, ça arrive. C'est vrai qu'au départ, surtout, on est tellement zélé, on va là-bas, on va à gauche, on est invité. Et à un moment donné, en fait, il faut s'asseoir et remettre, en fait, les choses, l'ordre des priorités. Mm-hmm. Il faut discuter, mettre l'ordre des priorités. Et je pense que s'il y a des fois, mon mari me disait, viens avec moi. Il me disait, viens avec moi. Et surtout, quand j'allais avec lui, j'étais aussi d'une aide. Je pouvais aider dans ce qu'il faisait. Donc, il m'emmenait avec lui. Et ça me permettait de voir ce qu'il faisait aussi. Donc, je pense que s'il y a des serviteurs de Dieu qui nous écoutent, emmenez vos femmes avec vous. Il ne faut pas toujours qu'elles restent. Faut les emmener. Ça permet de voir, en fait, sur le terrain, ce qui se passe. Et ça permet aussi qu'elles puissent avoir une autre approche. Donc, je pense que c'est vraiment important de...
Ce qui est important aussi, c'est de comprendre qu'il y a des saisons aussi dans la vie.
Oui.
Il y a des moments où est-ce que parfois, au tout début du ministère, soit les deux travaillent, en plus, il y a le ministère, à l'église locale, t'es là les soirs, le jour, l'homme travaille, un travail, après ça, la femme aussi, tout ça. Il y a des saisons, il y a des temps, mais l'important, c'est que le couple soient d'accord pour pas qu'il y ait de friction et que le diable ait de place pour attaquer en femme. C'est ça qui est important. Et ça, il faut vraiment se mettre d'accord dans le couple par rapport à, là, je m'en vais à fond pendant 2 semaines parce que là, il y a des réunions de prière et des trucs. OK, il n'y a pas de problème, je vais travailler. Mais s'il y en a un qui veut foncer et que l'autre n'est pas forcément d'accord, ça va créer des frustrations. Mmh. Vraiment, vraiment. Et ça, les gens doivent le savoir et se mettre d'accord dans le couple, c'est super important. C'est juste un point que je voulais rajouter.
Exactement. Il y a vraiment un équilibre à trouver parce que parce qu'on ne vit pas les mêmes choses, et c'est sûr. Et après, tu parles de saison. Il y a la saison aussi, ben, les enfants sont petits. Ouais. Généralement, c'est l'épouse qui reste à la maison avec les enfants, qui ne peut pas aller de conférence en conférence. Ou, moi, je l'ai même vécu au sein de MCI TV. Quand je m'occupais de mes enfants à la maison, mon mari qui travaillait comme un fou à MCI, qui était dans tout un tas de projets, dans tout un tas de choses. Puis finalement, toi, tu es à la maison avec les enfants, puis tu as l'impression que, oui, qu'on a deux vies finalement, parce qu'on se croise à peine. C'est important, comme tu le disais, Frank, d'avoir... de prendre vraiment des décisions en commun et de se mettre d'accord et puis de communiquer, de dire bah, « là, j'ai besoin que tu sois un peu plus présent » ou « j'ai besoin peut-être que tu me partages ce que tu vis aussi quand tu vas prêcher ». Il y a des hommes qui sont qui sont pas très bavards à raconter ce qu'ils ont vécu. Ouais. C'était bien la conférence, chérie, la femme, elle est restée à la maison, elle a juste envie de sortir, mais elle peut pas forcément. Et le mari, ouais, c'était génial.
Mais encore.
Ouais. Ah, non. Et important aussi de partager, de vivre ensemble, de dire, on va prier ensemble pour cette conférence et tout, que la femme se sente impliquée vraiment de cette façon-là pour justement faire en sorte qu'on ait une vie commune, même si on n'est pas ensemble physiquement tout le temps, parce que c'est pas possible. Mais on a des temps communs où on partage des choses ensemble et puis le ministère ne devient pas l'ennemi numéro un à battre pour récupérer mon mari. Parce que des fois, ça, c'est un risque aussi. Hein. Oui. On parle beaucoup. Hein.
C'est trop tard.
Et dites-nous.
Mais ce que je veux dire par rapport aux deux points qui ont été mentionnés, je crois qu'on parlait de l'estime de soi, c'est ça le thème. Je crois que la femme du pasteur elle-même doit aussi, avant de chercher que son mari la positionne ou la mette, qu'elle-même aussi, elle doit comprendre est-ce que Dieu... quel est ton appel pour moi? Et des fois, c'est nous-mêmes qui sommes nos premiers... je veux dire, on est notre premier barrage avant que ce soit l'autre. On a l'impression que les gens ne viennent pas vers nous parce qu'on a l'impression qu'on n'a rien à leur donner. Ou bien une personne n'est pas venue, c'est sûrement parce que je n'ai rien, j'ai rien à dire. L'autre a quelque chose de mieux à dire. Et du coup, c'est comme inconsciemment, on se met déjà dans une position où on n'est pas participatif. Mais si on sait que quand Dieu a placé Adam, ben il a mis aide à son côté, ben si Dieu a placé mon mari dans le ministère, il m'a mis à côté. Et des fois, on a le raisonnement que parce que dans la vie de tous les jours, le président d'une compagnie d'aviation, ben sa femme, elle n'est pas copilote. Mais dans le ministère, c'est spirituel, c'est pas la même chose
c'est
que dans le naturel.
Chose, voilà.
Donc du coup, oui, c'est vrai que tu as un appel sur toi. Peut-être qu'il n'est pas au même niveau que ton mari, mais tu as un appel sur toi. Mais cet appel va se révéler quand toi-même, tu vas aimer le ministère, quand toi-même, tu vas aimer l'église, quand toi-même, tu vas aimer les gens malgré l'attitude que les gens ont envers toi. Parce qu'au départ, et c'est comme tu parlais des pièges de l'ennemi, l'ennemi va se servir des gens pour attaquer l'épouse dans des remarques, dans des choses pour qu'elle puisse... s'asseoir, se mettre à l'écart, avoir de l'amertume et créer vraiment des divisions et que l'homme commence vraiment à vivre le ministère à part et puis la famille à part. Or que c'est vraiment un appel collectif. Et ça, c'est vraiment important en tant que femme de se lever nous-mêmes d'abord, nous avec Dieu, avant même d'aller voir nos maris, avant même d'aller voir l'Assemblée.
Amen, amen. Un autre point, mes enfants sont un frein. Alors ça, bon, bah, ça concerne malheureusement une fois plus les femmes. J'ai un tout petit peu introduit le sujet. Excuse-moi si j'ai mangé ton point. Mais c'est vrai que faut s'en occuper des enfants aussi.
Ah là là, ça c'est vrai. surtout quand ils sont en bas âge.
Oui.
Et c'est vrai que parfois c'est très très délicat parce qu'en tant que femme, les premières années, on a l'impression qu'on fait que ça. Mm-hmm. On doit rester à la maison, s'occuper de nos enfants, le mari part. Et comme tu disais, parce que oui, t'as parlé de mon point.
Ben oui, je suis désolée, j'ai réalisé en le lisant après, pardon.
Comme tu disais, parfois, en fait, c'est lorsque le mari arrive à la maison, c'est important, en fait, qu'il fasse participer sa femme en lui racontant, en fait, ce qu'il vit. Parce qu'effectivement, des fois, quand on a des maris pas très bavards, ils peuvent rentrer et tu demandes alors la conférence, l'événement, et puis il te dit juste oui, oui, ou limite, en fait, ils sont dort. T'as vraiment l'impression, en fait, que tu es... Voilà. Et du coup, tu commences à avoir des pensées, ben, j'aurais pas dû avoir d'enfants, alors que la Bible dit que ce sont des bénédictions, les enfants, pour nous. Donc, on doit pas les voir comme des freins. Je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, il faut voir, en fait, les différentes saisons de nos vies. Il faut voir, en fait, celui, ou celle qui est plus, en fait, à même de faire des efforts. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas que nos maris nous aident, parce que je pense aussi qu'ils ont leur part, en fait, à apporter dans l'éducation de nos enfants. Donc, c'est très, très important. Mais il faut pas qu'il faut vraiment, je veux parler à une femme et lui dire, arrête d'employer le mot frein quand tu parles, en fait, de ton enfant. Parce que, comme on le disait, la parole est tellement importante que si l'enfant réalise au bout d'un moment que tu le vois comme un frein, il va développer, en fait, cette façon de se voir lui-même. Et après, on peut avoir des enfants qui n'aiment pas le ministère, qui ont des façons d'être parce qu'on leur a montré qu'ils étaient des freins pour nous. Donc, c'est important de les emmener avec nous quand on peut. Et même quand c'est difficile, j'ai envie de dire aux mamans, prenons sur nous. Prenons des temps à part quand les enfants sont pas là pour discuter avec, ou quand ils dorment, s'ils sont petits, pour discuter avec notre mari, pour vraiment revoir la stratégie de la famille. Mais il faut vraiment éviter les mots frein ou par exemple, oh, qu'est-ce qui m'a pris, voilà, obstacle. On entend des femmes dire, qu'est-ce qui m'a pris de faire cet enfant. Je le dis parce qu'à un moment donné, moi-même, j'ai pensé comme ça. Donc, je veux vraiment encourager. À un moment donné, je me disais, mais j'avais pas ma petite, ma vie, elle était comme je voulais, j'allais, voilà. Et quand l'enfant arrive, tu dois tout calculer. Donc, c'est vrai que ça peut être difficile, mais continuons de confesser la parole et voilà, c'est pour l'équilibre familial, c'est très important.
Amen, amen. Et tu vas nous encourager pour terminer, Pasteur Aïda, c'est possible d'être épanoui dans le ministère.
Oui, j'ai l'air épanoui, non?
Oui, complètement, vraiment. Pour de vrai, je me le disais en te regardant, oh, c'est beau, elle rayonne.
Gloire à Dieu. Non, c'est vraiment possible d'être une femme épanouie dans le ministère quand on comprend ce à quoi Dieu nous appelle. Et ça, c'est important, je le dis, parce que je pense qu'on manque parfois un peu d'enseignement à ce niveau-là. Quand on va dans le mariage, même quand on épouse un homme de Dieu, on est tellement convaincu qu'on sera toujours ensemble et tout ça, qu'on peut être, en fait, comment je pourrais dire, freiné à un moment donné quand les choses ne vont pas comme on voudrait. Mais quand on réalise, par exemple, moi, aujourd'hui, j'ai des projets à l'église, j'ai une académie, toutes ces choses-là, et je m'occupe, en fait, je suis dans mon champ d'action, je suis dans mon couloir. Donc, je m'occupe des femmes, je fais vraiment les choses que Dieu m'appelle à faire. Mais pourquoi? Parce que j'ai découvert ce à quoi Dieu m'appelait. Et vu que je l'ai découvert, je suis dedans. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, découvrir les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Tu es dedans et tu es épanouie. Et faut dire aussi que il y a de la joie dans le fait de paître le troupeau de Dieu. On n'a pas que de l'ingratitude, hein. Faut le dire. Il y a des personnes qui viennent vers nous, qui nous manifestent de l'amour. En tant que femme de Dieu, on a aussi des honneurs. On n'a pas que, des coups bas, tout ça. Donc, honnêtement, Dieu place à côté de nous des personnes qui nous aident à ressortir, en fait, ce qu'il a investi en nous. Et moi, je regarde, il y a 5 ans quand j'ai commencé, et aujourd'hui, enfin, 5 ans le ministère pastoral, parce qu'avant ça, j'étais déjà dans l'église depuis 17 ans. Mais quand je vois, en fait, ces 5 dernières années, je vois, en fait, une progression. Quand je vais à l'église, je suis contente, malgré les épreuves. Pourquoi? Parce que j'ai appris aussi à développer une relation avec le Saint-Esprit. J'attends pas que mon mari, pasteur de la maison, vienne commencer à déclarer sur ma vie, même s'il le fait pour notre famille. Mais j'ai appris, en fait, à avoir ma relation avec le Seigneur, et c'est ce qui me permet d'être épanouie dans le ministère. Donc, le conseil, c'est développe ta relation avec le Seigneur et communique avec ton mari, et tu verras que tu seras une femme épanouie dans le ministère.
Amen. Amen, amen. Et c'est possible aussi de se sentir impliquée sans forcément faire les mêmes choses que notre mari.
Ça, c'est vrai aussi. Je crois qu'on l'a un peu dit, on l'a un peu dit tout à l'heure, mais effectivement, je pense qu'on peut ne pas, déjà, enfin, c'est rare qu'on fasse vraiment les mêmes choses parce qu'on n'a pas les mêmes couloirs, mais on peut se sentir impliqué. Tout en étant, en fait, je sais pas, si je prends le cas de Gwen, tu es chantre, et ton épouse est fait.
Ben, travaille, fait de la compta pour EM, ouais. pour Jérémy, pour.
Voilà, elle fait pas forcément les mêmes choses que toi, mais je pense qu'elle se sent impliquée à tes côtés. En fait, je pense que le tout, c'est vraiment, en fait, à la maison, les ajustements qu'on fait. Si on sait que, en fait, on est en harmonie, même si devant les gens, on n'a pas les mêmes tâches, et que, faut le dire, il y a des personnes qui viendront nous voir, parce que ça aussi, dans l'église, ça existe. Des personnes qui viennent te voir, qui te disent, ah, tu vois, ton mari te valorise pas, voilà, t'es toujours derrière. Il y a des personnes comme ça aussi que parfois, le diable utilise pour te faire,
C'est vrai.
Voilà, ça, c'est vrai. Mais, en fait, quand tu sais très bien, voilà ta place. En fait, quand tu connais ton appel, ça répond à tout le reste. Tant que tu connais pas encore, prends le temps de prier, parce que parfois, c'est progressif de découvrir ce à quoi Dieu nous appelle. Mais prends le temps de prier, prends le temps de communiquer avec ton époux et de faire confiance, en fait, au plan de Dieu. Et en fait, les choses vont s'emboîter les unes les autres, et ça va tellement être naturel. Franchement, le ministère,
Oui.
Juste parce que je parlais de, par exemple, mon épouse qui fait effectivement de la compta pour l'église, etc. Là, ce que je vois plus, la dimension dans notre couple ou dans notre famille, la dimension, c'est vraiment de servir Dieu. Mm-hmm. C'est de servir Dieu dans ce qu'on est en train de faire.
Yes.
Et on veut vraiment être des serviteurs dans ce qu'on fait. Donc, il n'y a pas de dimension, tu sais, inférieure ou, tu sais, qui est complètement, c'est une saison de ça. Oui, certes, il peut y avoir des saisons particulières, mais la seule qui demeure, c'est de servir Dieu.
Amen.
Et quand on le fait, si tu es en train de juste faire un travail, tu sers pas Dieu. Mais si tu le fais en servant Dieu, eh bien, tu manifestes toute la puissance du Saint-Esprit au travers de ton ministère. Mmh. Si ton ministère s'est occupé des finances, de tel et tel truc, ce ministère doit être développé d'une manière miraculeuse, tu vois. Donc, je vois plus la dimension de servir Dieu. Les enfants, pareil, servir Dieu. Mon fils, je l'encourage à servir Dieu. Dans la maison, on déclare qu'on sert Dieu.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Aïda, d'avoir creusé ce point qui est important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui en souffrent et j'espère que à la maison, ça vous a fait du bien, ça vous a encouragé et vous savez désormais où fixer vos yeux. Vous connaissez désormais votre valeur, que vous soyez femme d'un serviteur de Dieu ou que vous soyez un simple croyant, une simple croyante, vous avez de la valeur. Votre valeur, je le répète, n'est pas déterminée par ce que vous faites ou ne faites pas, n'est pas déterminée par ce que les autres disent ou ne disent pas de vous. Votre valeur est déterminée par ce que Dieu dit de vous. Et il dit que vous êtes une créature merveilleuse, extraordinaire, pour laquelle il a formé des plans merveilleux. Et nous croyons que vous avez de la valeur. Et nous espérons que vous y croyez aussi avec nous. On va se retrouver demain, Pasteur Aïda. Nous, on se retrouve jeudi. Donc, ne pars pas trop loin. On se revoit bientôt. Et demain, nous parlerons de l'excellence. En quoi l'excellence est-il importante dans l'église locale? Et nous aurons un conseil du coach avec un invité, le pasteur Nathanaël Beumier, qui est également ingénieur du son, un très bon ingénieur du son, qui va nous dire comment améliorer le son, la sonorisation dans une église. Ça paraît très simple, mais vous allez voir que c'est aussi très spirituel. On se retrouve demain. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.